Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 7 juin 2021. C'est lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine, une vraie semaine complète cette fois. Il n'y a pas de férié ni chez nous ni chez eux, donc on va avoir une journée, une semaine à peu près normale. Pour l'instant, on va devoir commencer par digérer un petit peu ce qui s'est passé vendredi dernier. Donc vendredi dernier, alors qu'on était déjà tous en mode pré-weekend, donc les chiffres non-farm payrolls sont sortis, je vous en avais parlé. Donc on attendait 650 000 créations d'emplois sur les non-farm payrolls, on est sorti à 559 000, donc clairement en dessous des attentes de nouveau. Deuxième mois consécutif en dessous des attentes. Petite déception fondamentalement, puisque ça veut dire que l'emploi ne repart pas aussi fort que ce qu'on attendait. Donc on aurait pu s'attendre finalement à un début de semaine plutôt, une fin de semaine plutôt décevante avec... Ouais, une déception affichée par les marchés, mais en fait, que nenni, parce que, encore une fois, on a interprété comme d'habitude un peu à une autre manière. Donc, on s'est dit oui, alors c'est bien, parce que si jamais l'emploi ne redémarre pas aussi vite que prévu, ça veut aussi dire que du coup, on parle moins de la thématique de l'inflation. Et si on parle moins de la thématique de l'inflation, eh bien, forcément, a priori, il ne devrait pas remonter les taux de sitôt. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, alors, on s'est accroché au fait que les taux ne vont pas remonter tout de suite, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a terminé en boulet de canon, enfin relativement bien, le S&P est quasiment au plus haut de tous les temps, le Nasdaq affiche de nouveau une santé de fer, alors pas d'inflation, donc ouh, youpi la technologie, donc on est reparti sur les technos, on n'est plus très loin d'aller chercher les plus hauts historiques sur le Nasdaq, tout a l'air d'aller pour le mieux. Malgré qu'on parle quand même effectivement beaucoup, beaucoup d'inflation, de l'interprétation de l'inflation, de ce qu'on en fait, d'où vient cette inflation, et qu'est-ce qui va vraiment déclencher quelque chose de violent, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose de violent. Beaucoup de questions qui restent ouvertes, mais aujourd'hui, beaucoup d'interprétations qui sont faites de manière assez originale. On s'attendait pas forcément à ça vendredi après-midi. Un taux de chômage qui passe de 6,1 à 5,8, sachant que le véritable taux de chômage est plus proche des 10,2, mais enfin, ça, c'est notre histoire. Donc voilà, on est un petit peu... content du recovery, mais déçu du nombre d'emplois qui sont créés, mais c'est quand même plutôt pour l'instant une bonne nouvelle pour les marchés. Donc on s'accroche au pinceau tant qu'on n'enlève pas l'échelle. Autrement, on a eu quand même Madame Yellen qui a parlé aussi ce week-end, ça va quand même être un des gros événements, je pense quand même qu'on va devoir en parler cette semaine. Madame Yellen qui a déclaré que ce serait plutôt un plus pour... le pays, pour les États-Unis, de voir les taux remonter. Alors, je suis pas sûr que les marchés considèrent ça comme étant un plus, en tout cas à l'heure actuelle. Néanmoins, bon, il faut remettre un petit peu d'eau dans le vin de son discours, puisqu'elle a laissé entendre qu'effectivement, si les taux devaient être amenés à remonter, ça voudrait aussi dire que l'économie serait repartie d'une manière forte et durable. Donc, du coup, ce serait plutôt positif. Enfin, bref, c'est pas forcément très négatif, mais psychologiquement, quand on entend Madame Yellen dire oui, c'est bien si les taux y montent, on n'est pas sûr qu'on a envie d'entendre ça. Alors, d'ailleurs, je me demande toujours s'il se parle vraiment avec Monsieur Powell, parce que pour l'instant, on a l'impression d'avoir deux discours qui sont pas forcément des gens qui sont dans le même camp. Donc pas mal d'interrogations là-dessus. Néanmoins, c'est un des sujets qu'on risque d'aborder aussi. On va aborder aussi les mêmes histoires que la semaine dernière avec Musk. Alors Musk n'a pas tweeté, rien tweeté de spécial pour l'instant, mais par contre les Anonymous ont plus ou moins laissé entendre qu'ils n'étaient pas très contents par rapport à son comportement via ses tweets liés au Bitcoin qui auraient coûté plein d'argent à plein de gens qui traitaient en crypto-monnaie et qui comptaient un petit peu sur les cryptos pour prendre leur retraite. Donc il lui reproche son comportement erratique, il lui reproche ses tweets destructeurs pour les cryptos, et il laisse entendre quand même qu'il y aura un petit peu de représailles. Donc allez savoir, peut-être qu'ils vont pirater les Tesla, et que du coup elles ne marcheront plus qu'au diesel après. Bref, donc du coup c'est quelque chose dont on va probablement reparler aussi cette semaine. Musk, toujours présent dans les médias, comme d'habitude, depuis plusieurs mois. Et puis, on notera aussi l'affaire, enfin tout ce qui tourne autour de AMC, de GameStop et consorts. Alors, AMC, GameStop et consorts, c'est encore autre chose, c'est un petit peu est différent, mais on a eu deux ou trois banques d'affaires qui sont en train de retirer finalement le suivi. Donc, vous savez, certaines banques suivent finalement les actions, ils donnent des recommandations, évidemment. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de suivre GameStop, arrêter de suivre AMC, parce que ça ne faisait plus aucun sens, les valorisations étaient complètement débiles, la situation était complètement débile, et que les titres n'étaient finalement plus que drivés par la spéculation. Ça, on n'avait pas compris encore. Mais enfin, voilà. Donc, du coup, ils arrêtent de les suivre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, l'investisseur classique qui n'est pas connecté au forum Wall Street Bet va se retirer de ce genre d'action parce que pas de recommandation des grosses boîtes fondamentales, des grosses boîtes de recherche, des gros banquiers d'affaires. Et puis, on va se concentrer sur autre chose. Les hedge funds, à force de se faire démonter sur les short squeeze, peut-être qu'ils vont arrêter d'intervenir. Et finalement, on va se retrouver avec quoi comme actionnariat dans ces boîtes-là? Uniquement des traders de Wall Street Bet. Donc, ils vont se retrouver sans acheteurs, sans intérêt, avec des valorisations complètement débiles. Et puis là, il y en a un qui va se dire, bon, bah, qui c'est qui sort en premier? Et puis, hop, ça commencera à vendre. Et puis après, ça fera effet boule de neige. Et finalement, on devrait peut-être se retrouver à un niveau de valorisation correct, plutôt style 90% plus bas. Bref, affaire à suivre, mais en tout cas, on voit quand même que petit à petit, à force de manipuler ce genre de choses, il y a quand même des gens qui vont se retirer, et il y aura moins de moins en moins de monde, et moins il y aura de monde, plus ça va être dangereux, à mon sens. Il y aura quelques chiffres qui vont débarquer cette semaine, et ce sera probablement une des thématiques importantes à noter cette semaine. Les chiffres qui sortiront seront principalement liés à l'inflation. Il y aura beaucoup de CPI qui seront publiés et le CPI devrait nous amener à reparler évidemment de l'inflation. Donc surveillez tout ça cette semaine, mais on en reparlera dans ces prochains podcasts. Et puis, on ne peut pas terminer la journée sans parler du Warren Buffett Indicator qui ne cesse de monter. Alors souvenez-vous, le Warren Buffett Indicator, c'est ce calcul qui est fait par rapport à la capitalisation boursière des actions et au GDP américain, au PIB américain. Et aujourd'hui, les capitalisations boursières atteignent des niveaux stratosphériques. Et puis, à côté de ça, eh bien, on atteint plus ou moins 200% du GDP ou du PIB. Alors, il y a quelques mois en arrière, on se disait « Oui, mais c'est un peu biaisé parce que le PIB, il était à la ramasse après la pandémie. » Mais aujourd'hui, on a un recovery économique qui est en marche et on a une capitalisation boursière qui explose. Et si vous regardez un petit peu les injections des banques centrales, eh bien, on se rend compte que plus les banques centrales injectent, plus le marché monte, plus la capitalisation monte, et que finalement, on est en train de dépasser complètement les niveaux du GDP américain. Alors, on dit en général que quand on dépasse les 120, 150%, c'est des signaux de crash. Alors, à 200%, je ne sais pas ce que ça représente. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est au plus haut de tous les temps en termes de capitalisation boursière, qu'on a largement dépassé les niveaux qu'on avait à l'époque de la bulle Internet, largement. Donc voilà, pour certains, c'est quand même considéré comme un signal d'alarme. L'idée du jour aujourd'hui, ce sera SAP. SAP, je regardais un peu le chart ce matin. Alors, SAP s'est fait déglinguer il y a quelques mois en arrière. Retour sur les 90 dollars après être passé par les 140. Ils avaient dit que les chiffres étaient décevants à cause de la pandémie et qu'ils attendaient un recovery dans les 12 mois à venir. Alors, gentiment, on s'approche des 12 mois. Les chiffres étaient bons, le titre remonte gentiment. Là, on est dans une configuration de triangle. J'ai l'impression que le titre semble prêt à vouloir casser à la hausse. Les indicateurs techniques sont plutôt positifs. Le titre vient de croiser les moyennes mobiles 50 et 200 jours, ce qui est une golden cross, donc plutôt positif sur la tendance de fond. Donc, je pense qu'il y a un truc à jouer pour aller chercher une vingtaine d'euros plus haut, sur SAP en partant sur ces niveaux-là. Donc, à surveiller SAP, je pense qu'on peut envisager un breakout avec un target autour des 135 euros. La première question du jour, ça concerne l'argent. Donc, la personne me dit, comme toi, je suis d'accord que l'argent va casser les 28 dollars, voire les 30 dollars. Donc, j'avais investi dans des Varan Strike 25 en janvier avec une échéance à juin. L'échéance maintenant est assez proche et j'ai bien peur que mon objectif ne sera pas atteint d'ici là. Penses-tu que c'est une bonne idée de vendre maintenant en encaissant une petite perte et racheter des Varans avec une échéance septembre, voire plus longue, pour jouer et jouer le tout pour le tout, ou attendre quelques jours avant l'échéance en misant sur une hausse dans les jours à venir? Alors, pour être très franc, vu l'environnement, j'imagine, je vois pas pourquoi l'argent démarrerait maintenant. Moi, je suis plutôt convaincu que sur l'année, ça va démarrer. Ça peut démarrer tout de suite, mais je vois pas pourquoi là maintenant tout de suite. On voit que l'or pagaille aussi pour démarrer. Je sais pas. Moi j'aime bien avoir un peu de temps. Donc ce serait dommage de tout perdre tout perdre. Mais pas tout perdre, mais disons que vous pouvez aussi attendre l'échéance, liquider vos varons à l'échéance et repartir après derrière. Maintenant je vois pas pourquoi aujourd'hui l'argent démarrerait à une vitesse pareille tout de suite, là, maintenant. Donc, j'aurais tendance, pour des raisons de sécurité, parce que je suis un type super conservateur et qui est pas forcément, qui a pas forcément un appétit au risque délirant, surtout quand c'est pas mon argent. Mais disons que je peine un petit peu à voir les catalystes aujourd'hui, là, tout de suite, qui généreraient une accélération de l'argent. Donc j'aurais tendance à vouloir prendre la perte, racheter quelque chose un peu plus long terme pour se donner un peu de recul, sachant de toute façon que moi je reste convaincu que d'ici la fin de l'année, l'argent aura démarré. Et si vous achetez un truc sur une échéance septembre ou décembre, je pense que l'accélération haussière derrière va largement compenser la petite perte du moment. Donc je serais plutôt tendance rollover, c'est-à-dire vendre le call et racheter autre chose d'un peu plus loin pour s'offrir un peu plus de sécurité, même si vous êtes in the money pour l'instant. Deuxième question du jour, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Vous nous avez indiqué il y a quelques mois que Porsche allait bientôt avoir ses propres actions et donc que la holding risquait de voir ses prix baisser. La question est donc la suivante, vaut-il mieux vendre avant l'introduction de Porsche ou attendre? Alors pour l'instant, j'aurais tendance à dire que vu le niveau du titre, moi j'avais des positions en Porsche et j'ai réduit la position à peu près à ce niveau-là. En attendant qu'elle baisse pour racheter un peu plus bas, j'ai pas eu le temps de racheter parce qu'elle est repartie de nouveau à la hausse. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, le prix de l'action aujourd'hui ne reflète pas fortement pardon, la valeur de Porsche totale. Je pense que le jour où on aura vraiment les actions qui représentent Porsche, ce sera beaucoup plus spéculatif et beaucoup plus spectaculaire. C'est difficile de dire à quel moment vendre, mais pour l'instant, je crois que moi, je resterai dans la holding parce que, en fait, on sait que le groupe Volkswagen veut faire une IPO, mais on sait que la famille Porsche n'a pas tellement envie qu'il y ait une IPO. Donc, du coup, la bagarre risque de durer un peu et je pense qu'on, pour l'instant, on n'a aucune date. On parlait de fin d'année, mais plutôt premier trimestre 2022. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc, pour l'instant, on a encore le temps de rester dedans. Et je pense effectivement que plus on s'en rapprochera, plus les gens vont vouloir sortir de la holding pour aller attendre, pour aller acheter de la Porsche. Mais ça pourrait très bien se produire une fois que l'action est sortie, parce que comme vous saurez pas ce que vous allez toucher à l'IPO, ça sera toujours délicat de faire le switch. Donc, afin de ne pas rater le train, moi pour l'instant, je resterai dans l'action Porsche, même si aujourd'hui, selon les niveaux où vous êtes rentré, la performance doit être quand même pas mal stratosphérique, sachant qu'elle a quasiment doublé en quelques mois sans aucune réelle raison fondamentale, si ce n'est que tout le secteur automobile s'est envolé. Donc, pour l'instant, je pense que cette question-là, elle n'est pas trop d'actualité parce que on s'attend à cette IPO, on sait que Volkswagen veut le faire, mais on n'a pas de nouvelles supplémentaires pour l'instant, donc affaire à suivre et à surveiller. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Nous sommes donc le 7 juin. On n'a pas ou peu de chiffres aujourd'hui. On a les factory orders en Allemagne et puis les chiffres de l'emploi en Suisse aujourd'hui. Les futurs sont quasiment inchangés. Les cryptos font pas grand-chose. À surveiller le pétrole qui a l'air de vouloir casser les 70 dollars tout soudain. Il a l'air vraiment d'être assez bien motivé pour chercher un bout plus haut. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.